RMC Entre les poteaux,
Georges Quirineau.
Et on est ravis de vous retrouver comme tous les lundis avec les poteaux. On enregistre ce podcast en début de semaine, après la moitié du tournoi Destination qui est derrière nous. Déjà, les Français pour l'instant ont fait un perfect avec des victoires bonifiées à chaque fois. La dernière face à l'Italie ce week-end à Lille. Une victoire difficile, mais on s'en est sorti quand même. Dans un tournoi où il y a quand même pas mal de surprises. Hein. Les Anglais ont encore trébuché. Les Italiens, c'est vrai que finalement, ils sont pas si mal. Les Gallois... Non, les Gallois, ils sont dans le dur, on l'avait dit depuis le début. Mais il va y avoir beaucoup de choses à dire. On va se poser beaucoup de questions sur le début de ce tournoi avec Chef Templier avec nous. Salut Wilfried.
Salut Georges. Ça va ?
Ça va, c'est la forme ou pas ?
Ouais, plus que la moitié, 60% même, je viens de calculer.
Ouais, mais c'est plus que la moitié.
Non, t'as dit la moitié.
Non, j'ai dit, on allait passer plus que la moitié. Je l'ai pas dit ? Je l'ai pensé très fort. Voilà, je l'ai pensé très fort.
Gna.
Insupportable. Là, t'étais le mec dans la classe qui levait le doigt. Monsieur, là, il a pas dit exactement ça.
Oh, non, pas trop. Pas trop, en fait.
Et en plus, t'es le chef, donc il faut que je te respecte un petit peu plus. Pierre Thévenet est là, il était à Lille également. Salut Pierre.
Salut tout le monde.
Bien rentré ?
Très bien.
On
mange léger à Lille. Deux Welsh en trois jours, ça me paraît tout à fait raisonnable.
Deux Welsh en trois jours ? Ouais.
Bien.
Tu es parti courir
une fois, hier matin.
Une fois, hier matin. Pas après le deuxième Welsh, quoi, peut-être.
C'est ça.
Il est avec nous. Il
en
devient...
parlant de Welsh.
Ouais.
C'est laid.
Ah ouais. Il devient officiellement, du coup, un poteau. C'est sa première cape de poteau. On va faire la cérémonie, peut-être. Ancien international. Grande gueule du sport également. Consultant rugby silandais. Cédric Emmons nous rejoint. Salut Cédric.
Bonjour à tous.
Salut Cédric.
Ça va Cédric ?
Bon. Ouais, ça va, très bien.
C'est la grande forme en ce moment Cédric ou...
On va dire quoi. J'ai subi une petite opération de hanche, donc voilà, ça fait, je me remets doucement.
Vous y passez tous, hein ? Ouais. C'est incroyable quand même. Hein.
Ouais. Ben ouais, tous ceux qui ont des appuis.
Les meilleurs quoi, Guy Noé, Cédric Emmons.
Vincent Clerc.
Ouais, Yannick Brut. Voilà, on ne va pas balancer tous les secrets médicaux, mais bon. Ouais, on vient de le faire, j'ai l'impression.
Et Cédric est ancien international, mais qui est aussi désormais sélectionneur pour le Crunch Creator quand même. Sélectionneur d'une équipe d'influenceurs.
C'est vrai.
Entraîneur.
Pas sélectionneur, je dirais entraîneur, exactement.
Entraîneur ? Non mais attends, mais il faut qu'on te vous voie du coup, Cédric ? C'est quoi l'histoire ?
Qu'est-ce que c'est que ça, ce truc-là ?
Qu'est-ce que c'est ? Mais
c'est moderne, Wilfried.
Exactement, ouais. Ça va se passer le 27 mai à Bordeaux, au grand stade de Bordeaux. C'est des influenceurs avec quelques anciennes gloires, on ne va pas annoncer les noms, qui vont venir, des anciens internationaux, jouer un match contre l'Angleterre. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le Crunch.
C'est bon ça.
Et ça va être une grande fête parce que je crois qu'en 2-3 jours, ils ont déjà vendu plus de la moitié du stade.
Ah ouais, d'accord. Ouais. Oh là là, mais c'est incroyable. De toute façon, Cédric, il est totalement à la page, hein, je vous le dis. Hein. Il a tous les événements de Squeezie également.
Il y aura peut-être Nicolas Paolorsi, parce que c'est un influenceur. On l'a vu sur Instagram
un peu
à la neige,
à la page,
je vous le conseille.
Nicolas Paolorsi. Voilà. Je préfère Cédric et Mans, qui est avec nous. On est ravis de t'avoir avec nous, Cédric. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre podcast préféré, votre podcast préféré, on l'espère, sur toutes les plateformes de téléchargement. Mais tout de suite, troisième journée du tournoi, on va se faire le week-end des poteaux.
5 essais pour les Irlandais, 3 essais pour les Anglais. Ils n'auront pas vu le jour dans le temple du rugby à Twickenham devant 100 000 spectateurs. Écrasante victoire de l'Irlande donc face à l'Angleterre, 42-21 le score final. Et c'est un match de déglingo pour la première fois de la soirée. Et bien l'Écosse qui passe devant sur un groupé pénétrant, les avants qui vont à dames. Le Pays de Galles est donc mené 26-23. Mais c'est vrai que les Écossais qui étaient largement dominés, hein, on l'appelle 20-5 par les Gallois, sont revenus avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps.
France-Italie, c'est parti ! Barassi dans le dos pour Ramos, la passe au pied vers Gaël Tréhant, il va récupérer le ballon !
L'essai
de Gaël Tréhant, c'est fait ! Le stade de Pierre Bonroy qui exulte ! Victoire 33-8 des Bleus, 5 essais, le bonus offensif, la tête du tournoi, et toujours avant 15 jours maintenant, à Murrayfield en Écosse.
Et oui, effectivement, on va en parler tout à l'heure, hein, de ce tournoi qui peut se jouer à Murrayfield en Écosse. C'est dans 2 semaines, hein, parce que c'est pas tout de suite. Là, c'est une petite semaine off.
Un peu de repos.
On va pas dire exactement comme ça, mais bon, voilà, on va se ressourcer quand même pour tous les joueurs du tournoi. On va faire les meilleurs poteaux et pires poteaux. Tiens, le meilleur poteau, c'est le chef, hein, Cédric. Du coup, je lui donne la parole en premier. Wilfried, ton meilleur poteau de.
Il a toujours voulu être chef, Wilfried.
Et du coup, il l'est.
Mais moi, j'ai des infos. À l'école, c'était un vrai tir à porteur. Hein,
c'est vrai.
Ce que vous disiez tout à l'heure. Ah, ben oui.
Ah, mais c'est
ça
important.
Levait pas le doigt, ça prenait la parole, ça apostrophait.
Ouais. Et dans les mix au stade toulousain, il faisait le chef aussi.
Ah bah, je sais pas, parce que Cédric il fuyait les micros. Alors,
ah, c'est bon, oh là, on règle les comptes.
Non.
T'as vu, tout d'un coup là,
c'est un enfant de cœur. Il nous vouvoyait.
Bon, allez, parlons sérieusement.
Meilleure photo, Wilfried.
Alors, j'étais parti sur Jamison Gibson Park parce que je trouvais que c'était l'emblème quand même de. Un des emblèmes avec McCloskey pour la victoire de l'Irlande en Angleterre. Et puis il y a eu le match d'Antoine Dupont, je suis désolé. Voilà, on parle souvent de lui, souvent mis en avant, mais que voulez-vous ? Hier, il a tout fait. Il a tout fait. Pied gauche, pied droit sur les dégagements. Il tape plus que Ramos dans le ballon. En ce que je regardais, il met 17 coups de pied. Ramos n'en met que 5. Donc il joue beaucoup hein, sur les mètres gagnés au pied par l'équipe de France. Et puis la défense, féroce. Je crois qu'on a. Vous avez vu quand Fusco, le demi-mêlé italien, a eu une seconde d'hésitation. Au ras du ruck, là, comment il s'est fait coffrer. Voilà, je pense qu'Antoine Dupont, encore une fois, repousse toutes les limites. On a l'impression de le dire tout le temps, mais il n'y a pas un joueur qui est aussi complet pour moi. Attaque, défense, pied, et puis même la puissance qu'il dégage, ballon en main ou en défense, et voilà, ça m'a encore bluffé. Je ne sais pas s'il faut encore être bluffé, s'il pourra toujours nous surprendre, mais voilà.
Qu'est-ce que c'est original, Wilfried ?
C'est vrai qu'il a été. On a l'habitude de le voir faire des grosses différences, mais sur le match de l'Italie, pendant 5-10 minutes, il y a un flottement et c'est lui qui tient avec la défense sur le 9, tu as raison, mais il a des interventions qui sont cliniques, chirurgicales. Et dans ce moment-là, il est vrai que les meilleurs joueurs du monde se révèlent et lui, eh ben, c'est un des meilleurs joueurs du monde et là, il a tenu la baraque. Mmh.
Ton meilleur poteau, Cédric, toi, c'est un autre joueur du 15 de France.
Moi, c'est Mafou parce que il avait fait des rentrées pas très convaincantes. Il avait besoin de marquer son empreinte, l'équipe de France, avec un très gros match. Et il a fait le match qu'on savait qu'il était capable de faire, mais là, dans les ballons portés, les mètres parcourus, la défense, premier ou second plaqueur. Alors après, dans son registre, gros porteur du jeu plutôt autour des zones de ruck, on ne l'attend pas au-delà du second centre. Mais là, il avait besoin de claquer un très gros match. C'est fait, c'est encourageant parce que ça amène une bonne alternative à l'équipe de France parce qu'on avait des secondes lignes plutôt hybrides, seconde ligne, troisième ligne sur les deux premiers matchs. Là, il fallait mettre du lourd, il a répondu du présent. Je crois que c'est à souligner et pour moi, ça a été l'homme de la rencontre face à l'Italie.
Pierre, ouais.
Je reste sur ce match aussi, je changerai de match pour les pires poteaux, mais c'est pas un meilleur poteau, mais c'est plutôt le grand gagnant du week-end. Pour moi, c'est Mathieu Jalibert parce qu'il n'a pas joué.
Mais non, il n'était pas là.
C'est fait exprès. Il n'a pas joué.
T'as vu qu'il n'était pas là.
Oui, j'ai vu. Ouais. Mais alors, déjà, il était excellent sur France TV. plusieurs avant-match. Non, mais ça montre aussi l'état dans lequel il est, c'est qu'il est très bien en équipe de France et il a manqué énormément. J'ai trouvé au jeu des Bleus, on n'a pas retrouvé l'animation qu'on avait eue sur les deux premières journées. Et donc, pour moi, après avoir vu ce match France-Italie, il y a un mec qui paraît désormais quasiment déjà indispensable au jeu des Bleus, c'est Mathieu Jalibert, qui on l'espère sera de retour pour l'Écosse. Mais pour moi, il a marqué beaucoup de points en ne jouant pas ce match face à l'Italie.
On va parler plus en profondeur du 15 de France dans un instant, en analysant le début de ce tournoi. Pierre Poteau, Wilfried, tiens, je sens que tu vas mettre un peu de.
Des Anglais.
C'est la copine
allez,
de Pierre.
Henri Pollock, il va y aller.
Ouais, mais parce qu'on récolte ce qu'on sème, en fait, quoi.
Pollock.
Pollock, parce que.
Faut savoir que Wilfried regarde les matchs de Pollock en espérant qu'il rate quelque chose. C'est
juste pour derrière, après, te le mettre dans la tête.
Ouais. Mais Wilfried, dans quoi ? Dans l'arrogance ou non ? Parce que rugbystiquement, il ne fait pas un si mauvais match que ça. Hein.
Ouais, mais c'est comme ça, de l'arrogance. Quand James Ryan lui met la tête dans l'herbe, là, j'ai trouvé ça magnifique. Quoi. Voilà. Pollock, il se prend le pouls quand il marque. Alors, je sais, c'est jeune, il faut évoluer, il faut chambrer, c'est normal. Cédric le faisait sur les terrains étant jeune, à certains.
Ouais, c'est pas faux, mais je ramassais derrière, il faut l'accepter.
Mais je pense qu'il l'accepte, hein, Pollock.
Bah ouais, et puis bah, pour l'ensemble, c'est le symbole de l'équipe d'Angleterre, dépoutraillée par l'Irlande. On pensait pas du tout, je sais pas qui, là, entre nous, pensait. avoir ce résultat. Pierre, on avait parlé, on se disait plutôt que les Anglais allaient rouler sur les Irlandais. Eh ben, ils se sont fait démantibuler les Anglais. Et Pollock, oui, peut-être pas le moins bon, le plus mauvais Anglais, pardon. Mais voilà, c'était juste pour la symbolique parce qu'on adore détester les Anglais.
Réaction voilà, du fan club de Pollock.
Donc c'était large, c'était pas le pire du tout sur ce terrain. Et je taperais plutôt sur le sélectionneur Borswick qui fait des choix qui moi m'étonnent de ne toujours pas faire jouer Finn Smith à l'ouverture par
c'est
exemple.
C'est ton pire poteau,
Borswick. Non, j'avais changé d'équipe, j'étais parti sur le Pays de Galles qui pourtant fait un bon match contre.
Non mais c'est pour dire
que même quand tout va dans leur sens, ils arrivent à perdre ce match qui est imperdable. Alors qu'ils ont gagné deux matchs depuis la Coupe du Monde, les deux matchs étaient face au Japon. Là, ils tiennent une victoire contre l'Écosse et ils arrivent à se saborder en fin de match en n'étant pas attentifs sur un coup d'envoi de Finn Russell. Donc c'est très très triste pour eux. Mmh. Et je les mets en pire poteau parce que pour une fois, ils avaient fait un bon match et ils étaient sur le point de enfin gagner dans le tournoi pour la première fois depuis 3 ans maintenant.
C'est vrai que toi, c'est aussi une équipe, hein, c'est ça hein.
Ouais, moi, c'est l'Angleterre, je comprends. En général. Honnêtement, je comprends rien. Je ne comprends pas les compositions d'équipe. Je ne sais pas s'ils veulent être dans la possession des possessions. Ils étaient face à l'Italie, ils se sont débarrassés du ballon et en espérant contrer. Là, ils ont essayé de jouer, mais ils savent plus jouer. À mon sens, ils sont complètement perdus dans un rugby qu'ils ne maîtrisent plus. Borswick, on sait qu'il a une énorme pression, donc peut-être qu'il hésite dans ses choix. Ses compos, elles sont pas cohérentes. Et puis tout le monde est en train de se remotiver pour mettre les Anglais au plus profond. Les Irlandais qu'on n'attendait pas, ils ont passé à la moulinette, ils leur ont marché sur la tête. En plus, vous rajoutez ce que disait Wilfried, de l'arrogance de certains. Je crois qu'ils doivent se taire, travailler, réfléchir à leur rugby, trouver une identité de jeu. Parce que
ils étaient invaincus depuis un an, Cédric. C'est ça qui est terrible. C'est qu'ils avaient réussi à gagner des matchs.
Je suis d'accord, mais tu regardes leurs matchs, ils sont toujours entre deux. Tu sais pas. Là, en tous les cas, sur ce tournoi-là, on a l'impression qu'ils ont voulu se débarrasser du ballon et contrer. Et ils ont vu que ça ne marchait pas. Et là, ils ont voulu essayer de jouer un peu plus. Donc, il y a quelques séquences qui sont intéressantes. Mais sur la ligne, ça ne franchit pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a des joueurs qui ne sont pas au bon endroit. Je pense que l'Angleterre cherche son rugby, mais ce que j'espère, c'est qu'elle ne retrouve pas. Quoi.
Ils vont la trouver pour la Coupe du Monde, comme d'habitude.
Exactement.
On va en parler dans un instant sur pourquoi peut-être il y a des problèmes chez des équipes qui étaient annoncées comme des favorites, sauf la France qui tient son rang. Allez, tout de suite, on a dépassé donc la mi-tournoi, Wilfried. On reprend notre souffle, on prend un peu de distance. On s'est éclaté avec les Bleus, mais il est si bien ce tournoi.
Sam Prendergast donne le coup d'envoi de ce tournoi Destination 2026.
Le score final, 36-14 pour les Bleus.
5 essais.
Bonus offensif.
Et sur la route du Grand Chelem, l'épisode 2 passe par Cardiff. Les Bleus sont là pour prendre la tête du tournoi Destination.
Ouais, Cachistera de Dupont qui était collé au mol et la passe au pied de Mathieu Jalibert dans les bras d'Atis Ogbe ou pas.
Eh oui,
victoire 54-12 de l'équipe de France.
France-Italie, c'est parti.
Ah, le ballon dévié récupéré par Antoine Dupont. Le coup de pied à suivre. Peut-être pour Bendéré. Qui court, l'essai.
Barassi dans le dos pour Ramos, la passe au pied vers Gaël Dréhan, il va récupérer le ballon pour sa première sélection. Victoire 33-8 des Bleus, 5 essais, le bonus offensif, la tête du tournoi est toujours avant 15 jours maintenant.
Et oui, ça c'est le very best-of de l'équipe de France depuis le début du tournoi Destination. Alors c'est vrai que nous on a vibré, spectateurs français, depuis le début en regardant nos matchs des Bleus. Mais alors, je ne sais pas si vous avez entendu la même chose ici et là, mais on entend cette petite musique qui monte peut-être sur ce niveau du tournoi Destination depuis le début, parce qu'il y a des surprises, peut-être parce que les Français justement ne sont pas forcément inquiétés, que ça ressemble à une autoroute, on l'avait dit un peu au début de ce tournoi. Est-ce que le tournoi Destination a baissé de niveau? C'est la question qu'on va poser aujourd'hui. Alors avant de vous entendre tous, je vais vous poser la question généralement, on va ouvrir les différents thèmes. Mais j'ai Pierre Thévenet qui est à côté de moi, qui me fait non de la tête depuis tout à l'heure, on dirait, vous savez, les petits chiens dans les voitures.
à l'arrière.
comme ça. Donc à un moment donné, il faut que je donne la
parole. C'est comme ça qu'on le met dans la voiture.
Sinon, ça sera un tortillon. Non mais pourquoi non? Le niveau a pas baissé?
Non, je trouve que c'est très français de dire quand on gagne des matchs, oui, parce que les autres sont nuls. On fait tout le temps ça. L'année dernière, en novembre, on bat les Australiens, ils sont nuls. On bat les Fidjiens, ils sont nuls. Bon, les Sud-Africains sont les plus forts du monde, ça c'est certain. Mais pour moi, c'est juste que l'équipe de France est depuis 2 ans largement au-dessus de ses adversaires dans le tournoi Destination. Le match que les Bleus perdent en Angleterre l'année dernière, c'est une anomalie. C'est un match que tu dois gagner 9 fois sur 10 parce que tu es plus fort que l'Angleterre aussi. Dès l'année dernière, les Bleus passaient 40 points à l'Irlande à Dublin. Je pense pas que le niveau globale est baissée. C'est juste que les Bleus, pour moi, sont au-dessus de la mêlée en 6 nations. Mais les autres matchs sont intéressants. L'Angleterre-Irlande était très intéressant. Le Écosse-Pays de Galles, même, on a eu du suspense. Je pense
Je pense que les Bleus
se sont élevés de la mêlée.
Tu ne peux pas dire que l'Irlande et l'Angleterre sont au rendez-vous. En termes de jeu, en termes de performance, ils sont.
L'Irlande fait un gros match contre l'Angleterre.
Je pense que déjà il y a la tournée des Lions. Toujours après la tournée des Lions, les nations britanniques sont un peu dans le dur. Mais que la France soit au rendez-vous, oui, là je suis d'accord. Mais je pense que l'Irlande, l'Angleterre sont vraiment pas au rendez-vous. T'as l'Écosse qui envoie du jeu, mais on a vu c'est fébrile face au Pays de Galles, l'Italie qui monte. Mais je pense que c'est surtout la France, elle est à son niveau et que les autres sont pas réellement à leur niveau.
Mais tu trouves, Cédric, que ces équipes-là, l'Angleterre, l'Irlande, sont beaucoup moins fortes que l'année dernière? Les Bleus, ils passent déjà 40 points à l'Irlande l'année dernière à Dublin.
Ouais, j'ai regardé les matchs, j'ai pris un peu de recul en me disant, j'ai bien regardé Irlande-Angleterre, mais il n'y a pas grand-chose. Honnêtement, dans l'animation, dans la proposition de jeu, il n'y a rien quand tu regardes l'équipe de France, hormis l'Italie, on y reviendra. Ça propose, il y a de la vitesse, ça amène des systèmes un peu plus, on va dire, différents en défense, il y a de la pression, il y a de la réflexion. L'Irlande, tu les vois pas, ils ont une moyenne d'âge de 32 ans, c'est vieillissant, ça manque de leadership. L'Angleterre, je l'ai dit, ils se cherchent, on sait plus ce qu'ils veulent faire. Moi je pense que c'est eux qui sont pas au rendez-vous, hein. Alors de là à dire que ça a baissé de niveau, bah oui, s'il y a les deux nations qui sont les deux nations majeures hormis la France sont pas au rendez-vous, oui, je pense que ça baisse de niveau. Mais je ne veux pas rentrer dans le cliché, c'est très français, ça je ne veux pas. Mais les performances ne sont pas au rendez-vous de l'Irlande et de l'Angleterre.
Will.
Ouais, bah, je suis plutôt d'accord avec Cédric parce que ça manque de constance dans chacune des équipes. La France est à part, la France est au-dessus, 15 points au classement, déjà on le voit. Faut pas que la performance irlandaise nous aveugle sur les deux premiers matchs qu'ils ont fait où ils ont été extrêmement décevants au Stade de France, pris par l'équipe de France aussi. Franchement, si l'Italie va chercher le nul ou mieux en Irlande, il n'y a pas à crier au scandale. Voilà, l'Écosse, moi j'ai été dévasté par leur première performance en Italie. Ils étaient méconnaissables. Alors ils se sont bien rattrapés parce que. Surtout contre l'Angleterre, parce qu'ils ont quand même du mal à Cardiff, contre une équipe qui n'a pas gagné depuis mars 2023 dans le tournoi. Donc voilà, à chaque fois, et l'Angleterre, n'en parlons pas, parce que ils ont été, sur les deux derniers matchs, les Anglais ont été inexistants en Écosse, face à l'Irlande, et c'est vraiment une surprise. Donc, quand vous faites tout ça, bah, vous dites que quand même, c'est vraiment décevant, et que sur l'ensemble des trois premières journées, je pense que ça baisse d'un cran.
Ça baisse d'un cran. Ouais, c'est vrai.
Pardon, t'es pas sur un tournoi où tu te dis, waouh, tout le monde peut gagner partout, ça joue, c'est solide.
Ça veut pas dire qu'on n'est pas en danger en Écosse.
Oui. Alors moi, c'est le match que je crains le plus. Je savais que l'Italie. Italie, c'est comme après. L'Argentine.
Je crois.
C'est... Ouais, pardon. Donc j'arrête.
Non, c'est moi, pardon.
mais tu te dis, bon, t'as la France. Et les autres sont un cran au-dessous, tu vois. Dans tout ce que tu peux voir, tu te dis pas ça va être un tournoi hyper relevé. On l'attendait pourtant. Hein. On s'est dit, quand tu reçois trois fois, bon, c'est une petite autoroute, mais c'est périlleux quand même pour aller faire la vainqueur du tournoi ou le grand chelem. Mais t'as ces deux prétendants qui sont pas au rendez-vous.
Alors du coup, on comprend à travers ce que vous nous dites depuis tout à l'heure que pour vous, vous êtes tous d'accord pour dire que les Bleus sont au-dessus. En termes de niveau de jeu, oui. Sur ce qu'on a vu depuis le début de la compétition, on rappelle ces trois victoires avec à chaque fois au moins 5 essais et donc des victoires bonifiées, même 8 essais face aux Gallois hier avec une défense aussi au rendez-vous. On va en parler. Peut-être justement pour revenir sur ce match face aux Transalpins, parce que bon, on va aller dans ton sens peut-être, Pierre, sur la valeur qu'on peut donner à une victoire face à l'Italie. Comment est-ce qu'on peut l'apprécier? Alors l'Italie qui n'est plus tout à fait l'Italie des dernières années, plus performante. Thomas Ramos, tiens, on a parlé juste après la rencontre.
Je crois qu'on sous-estime parfois un peu trop l'Italie au vu du parcours qu'elle a dans notre sport depuis quelques années, mais croyez-moi, sur le terrain, ça a tapé plus que les deux premiers matchs, donc on avait préparé ce match très sérieusement et je crois qu'on a bien fait parce que l'intensité imposée par les Italiens en face était au rendez-vous.
Ça a tapé plus que sur les deux premiers matchs, Cédric. Il faut l'entendre ce que dit Thomas Ramos, justement, pour apprécier. On est lundi matin, il y a eu ce matin des retours sur cette rencontre en disant une victoire un peu timorée, une victoire, on va dire, qu'on j'ai pas dire décrédibilise, mais qu'on descend un petit peu de son importance. Il a raison, Thomas Ramos, d'insister là-dessus. C'était pas facile d'affronter l'Italie. On parlait peut-être d'un des matchs les plus difficiles depuis le début.
Oui, il a raison, parce que l'Italie est en train de monter. On sait que l'Italie, sur le plan stratégique, physique, ils vont être au rendez-vous. Si par contre tu les respectes et tu arrives à gagner cette dimension physique sur les individualités, le talent, on a plus de talent en France que l'Italie. Si l'Italie, avec la générosité qu'ils ont, la préparation physique et la stratégie mise en place par González Quesada, vous leur mettez des joueurs plus, comme des Ramos, comme des Dupont, c'est une toute autre équipe. L'Italie, ça a toujours été compliqué, parce que tu sais que les rucks, ça va être difficile. Tu sais que la touche, c'est compliqué. En mêlée fermée, ils l'ont montré, ça devient très très solide. Après, il leur manque des joueurs extraterrestres qui font les différences. Parce que s'ils ont ça, c'est une équipe injouable. Après, si on prend le match de l'équipe de France, si on l'analyse et qu'on le regarde un peu, on marque deux essais à une seule passe. On marque deux essais avec deux très beaux mouvements et un essai où on est 13 contre 15. Donc dans l'aboutissement du match de la France face à l'Italie, on est en droit d'espérer un peu mieux quand on avait vu les deux premiers matchs. Et c'est là que je rejoins tout à l'heure Pierre. C'est vrai qu'un Jalibert marque des points parce que on n'a pas vu cette cellule offensive où lui amène de la vitesse. On n'a pas vu ce jeu plus ou moins rodé. On a vu un Ramos un tout petit peu plus en difficulté. Donc, sur ce match-là, je veux bien mettre un peu la part aux Italiens qui nous ont contrés, qui nous ont proposé un système défensif qui nous a un peu contrés. Et on a été en difficulté pour lancer le jeu sur mêlée. Mais la France, ce n'est pas le match abouti qu'on espérait, ça c'est sûr.
Je ne sais pas si tu es d'accord, Cédric, mais je trouve qu'on a un peu retrouvé l'équipe de France de novembre.
Oui,
où parfois, elle ne sait pas trop quoi faire de ce ballon. On sent qu'ils se précipitent un petit peu. Ils sont toujours aussi forts sur les phases de contre-attaque et de ballon de récupération, parce qu'on a des joueurs dingues pour ça. Mais c'est vrai que dans les mouvements, tu as parlé de Thomas Ramos. Il était un peu en difficulté. Il se fait intercepter. Il ne trouve pas une pénale touche. Il met un coup de pied direct en touche. Il s'est agacé, comme souvent, quand il a du mal, avant de faire une bien meilleure deuxième période, d'ailleurs. Mais je ne sais pas si c'est que l'absence de Jalibert, mais c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé cette même fluidité dans le jeu. Et Thomas Ramos nous l'a dit en zone mixte après le match, on lui a dit, mais est-ce que c'est l'absence de Mathieu qui aussi a fait ça? Elle lui dit, on a essayé de jouer un peu comme on l'a fait sur les deux premiers matchs, mais l'Italie a monté beaucoup plus fort en défense, et il dit, la seule fois où j'ai tenté d'aller vite toucher les extérieurs, je me suis fait intercepter, et du coup on est revenu sur un truc beaucoup plus axial autour d'Antoine Dupont aussi, qui, comme l'a dit Wilfried tout à l'heure, a du coup pris une dimension supérieure, parce que tout est repassé par lui, comme c'était le cas lors du tournoi de Six Nations l'année dernière.
Oui, et dû la grosse performance de Meafou, qui a eu touché beaucoup plus de ballons, parce autour que le jeu était orienté autour des gros porteurs, autour d'Antoine Dupont. Après, il faut relativiser, parce que Thomas Ramos, il apprend la veille qu'il va passer en 10. Le système, c'est pas pareil. Puis la vitesse et puis le jeu dans le dos autour du second centre adverse n'a pas pu être mis en place parce que l'Italie a fermé les extérieurs et on voulait couper nos ailiers. Mais c'est là où on s'est bien adapté. Mais on aurait aimé avoir un peu plus. Deux fois, ils ont mis de la vitesse. Et j'en mettrai une troisième quand Serin est rentré, où il a amené beaucoup, beaucoup de vitesse. Ben là, on a mis à mal cette équipe italienne.
Wilfried.
Heureusement qu'on les punit. Hein. Heureusement, hein, parce que 19 à 8, c'est flatteur à la mi-temps. Parce que sur le premier ballon, coup de pied de Dupont, essaie de bien le biarrer. Sur le troisième essai, vous le savez, touche lobée des Italiens qui ont été très mauvais en touche. Et si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été peut-être plus dur. Et donc, le gars percé l'essai de Ramos, franchement c'est cher payé pour les Italiens 19-8, et on met entre la demi-heure de jeu cet essai de Ramos et l'essai de Dréan, mais plus de 40 minutes à remarquer, hein, parce que je trouve dans les collisions ça a été beaucoup plus dur que les deux premiers matchs, la dimension physique. Moi, j'en ai croisé 2-3 à l'aéroport, pour tout vous dire, ça tire un peu dans les cervicales.
Après c'est le troisième match,
ouais, voilà.
Effectivement
on a senti que physiquement les joueurs, la semaine va faire
ça
du
bien. Ça cherchait un peu le second souffle. Ouais.
Cédric, tu l'as fait, toi, au bout d'un troisième match du tournoi enchaîné comme ça, t'étais comment?
Bah, t'es bâché parce que le premier match, t'arrives à l'énergie et tu laisses beaucoup de plumes dans la bataille. Après, tu prends le second match, forcément, t'as l'accumulation. Et après, et je trouve intelligent de la part du staff d'avoir changé, d'avoir ce second ligne hybride, de plutôt avoir mis un Meafu pour laisser récupérer parce que je pense qu'ils vont re-rentrer face à l'Écosse qui est plus joueuse. Mais tu sens que les organismes sont fatigués.
Ça, après, c'est une certitude. Non, mais juste dire que je suis d'accord avec vous que c'était pas un bon match de la part du 15 de France, mais on met quand même 33-8 au final à l'Italie, qui est l'équipe qui monte et qui est en forme. Ça montre aussi à quel point les Bleus, pour moi, sont au-dessus dans ce tournoi.
Non, on attendait autre chose.
Ouais, bien sûr.
Oui, non, mais c'est parce que. Non, mais ils nous ont habitués. Oui, mais c'est qu'ils nous ont habitués à pas du roi rugby, mais beaucoup d'offensives et tout. Là, on a gagné différemment. On a gagné avec notre défense, Fabien Galthié l'a souligné. Et on en parlait, Pierre, c'est quelque chose que tu avais noté, des stats d'avant-match sur ce tournoi, que la France. Dès qu'il y avait, Pierre, c'est ça, une entrée dans les 22 mètres, et deux fois sur trois, ça marque un essai, c'est ça.
Ils avaient encaissé 100% de leurs points sur des séquences de défense de leur propre ligne.
Après, ça peut être un match fédérateur, parce que quand tu sais que tu n'es pas en possession de la balle, type match face à l'Afrique du Sud, qu'il faut que tu défendes, il faut que tu règles ta discipline. Et là, on l'a réglé parce que là, bravo, il y a eu un super boulot de fait.
7 pénalités sur ce match, mais il y a eu 5 avant.
Il y a vraiment une prise de conscience. Je ne sais pas comment ils ont travaillé, mais je pense que les joueurs se sont responsabilisés. Et ça, bravo, c'est top. Mais quand en plus, tu as ta défense, c'est-à-dire que n'importe quelle nation, tu vas pouvoir jouer. Tu sais que dans ces moments-là, tu ne prends pas de pénalité et que ta défense te permet de contrôler et de fatiguer ton adversaire. D'autant plus que tout ballon tombé, tu es hyper efficace en contre.
Tiens, Wilfried, tu parlais des mots de Fabien Galthié, sélectionneur du 15 de France, sur la défense. On l'écoute. Autre chose.
Formidable défense. On s'est fait prendre deux fois plutôt sur des plaquages hauts qui auraient pu être mieux effectués. Formidable prestation collective défensivement au milieu de terrain, jamais pénalisé. Et près des lignes d'essai, on avait ouvert l'en-but deux fois par match précédemment. Et là, pas d'essai marqué, si ce n'est sur le turnover, sur le ruck contesté. Donc on a été aujourd'hui, quand vous parlez du jeu, il y a le jeu avec le ballon et le jeu sans le ballon. Ça fait partie du jeu aussi. Je sais qu'en France, on est des romantiques. On adore, on parle du jeu, on parle des projets de jeu, on parle que du jeu avec le ballon. Mais des fois, jeu sans ballon, ça permet de gagner des matchs. Même si l'Italie n'est pas une équipe qui marque énormément, c'est pas une équipe qui score énormément. Mais près des lignes, on a eu deux ou trois possessions italiennes à défendre et ça a été formidablement bien défendu.
Intéressant de l'écouter, Fabien Galthié, mais je pense que ce sera encore plus intéressant d'écouter ce que les Templiers a à dire en plus sur la défense.
Non, mais par rapport à ce que j'avais dit à Pierre, enfin, ce qu'on s'était dit, ce que Pierre m'avait amené comme stat sur ce côté friable dans les 22, et bien là, c'est l'inverse. L'Italie a marqué seulement en moyenne 0,6 points par entrée dans les 22 mètres français. Ils sont venus 10 fois et il n'y a eu qu'un essai. Donc, c'était l'inverse de ce que le staff avait souligné, ce qu'il fallait régler, avec 94% de réussite au plaquage, ce qui est énorme dans une norme internationale. Là, au-dessus de 90, c'est déjà très haut niveau. Là, 94, c'est monstrueux. L'exemple de Meafu, je crois qu'il y a 11 sur 11 au plaquage. Et quand il s'allonge, Meafu, quand il allonge ses 2m03 et son 145 kg, je pense aux vertèbres des adversaires. Là, je l'ai dit dans le match à un moment. Il y a une petite séance d'ostéopathe à prendre dans la semaine pour certains. Voilà, c'est l'image de la France dure. Et c'est vrai qu'on avait gagné, justement, sur l'offensive. Là, on a gagné. Et c'est intéressant, je trouve. Ça rajoute quelque chose dans ce jeu.
Ouais, puis l'analyse de Galthié, elle est juste parce que oui, on est romantique en France et on parle qu'avec le ballon, mais là, il a raison. C'est le jeu sans ballon et l'équipe sans ballon qui a construit ce match. Je vous rajoutais l'indiscipline parce que au bout d'un moment, quand tu es indiscipliné, tu fais faute, tu prends des points, mais aussi l'arbitre commence à avoir une tendance en tête et les cartons jaunes arrivent. Nous, on n'est pas pénalisés, on ne prend pas de carton jaune, on fait jouer les équipes en infériorité numérique, ils se fatiguent, t'es un mur infranchissable, et ça, mentalement, dans la tête des adversaires, c'est compliqué.
Juste pour, là-dessus, c'est pour ça que j'aime bien ce match, c'est que certes, il était moins plaisant, et je suis d'accord avec vous qu'il faut être beaucoup plus exigeant sur l'attaque, mais un tel niveau de défense et de discipline, on ne l'avait pas vu depuis très longtemps. J'avais regardé en novembre, c'était 12 pénalités en moyenne par match. Là, sur ce tournoi, sur ce match-là, on est à 7, et c'est le match où on est le plus pénalisé. Donc, ils ont divisé quasiment par deux cette stat-là, ils ont augmenté l'efficacité au plaquage et on se dit que si on arrive à faire en Écosse ou contre l'Angleterre un match où on allie l'efficacité offensive et la défense qu'on a vue hier, on va devenir quand même très très dur à jouer.
Après, on va voir face à l'Écosse, qui est une équipe qui joue, qui est un peu pas dans du hurrah rugby, mais il faut s'attendre à tout, à tout moment. Il y a qu'à voir Finn Russell, ce coup d'envoi rapidement joué. Quand on va avoir une équipe qui va porter plus le ballon, va nous mettre en difficulté, on va voir comment on va se comporter. Parce que si l'équipe se débarrasse du ballon, l'équipe que tu affrontes, forcément, elle ne te met pas en difficulté dans la défense, dans les systèmes de jeu, et ainsi de suite.
Là, on comprend quand même, en tout cas en vous écoutant, qu'il y a des vrais motifs de satisfaction pour comprendre pourquoi la France peut-être est largement au-dessus des autres équipes. Il y a une autre stat, moi, qui m'a quand même marqué, on va dire, ce matin, alors qu'on est déjà un peu sur un premier bilan de ce tournoi. La France, c'est 61% de duels aériens gagnés depuis le début du tournoi.
71%.
6 essais inscrits à partir de réception de coups de pied arrêtés. Donc la France, c'est la meilleure équipe dans ce domaine-là sur les deuxièmes ballons, alors que c'était un truc qu'on pointait du doigt. Souvenez-vous, après avoir joué les box, notamment, on disait mais jamais de la vie, on va réussir en quelques temps à revenir sur ce terrain-là. Franchement,
la preuve quand on bosse, on y arrive.
Travail, exactement, comme dit Cédric, il le bosse à Marcoussi depuis novembre.
Ouais, Pierre le voit ça.
Toutes les séances.
Qu'est-ce que tu vois ?
Un travail qui est très simple de montée de chandelle et de duel à deux, parfois à trois, avec des boucliers, des entraîneurs, et il claque le ballon.
C'est insupportable.
Et de lutte ensuite en deuxième ballon.
Exactement. Et surtout, je trouve que Fabien Galthié a mis les joueurs adéquats pour cette stratégie. C'est-à-dire que Théo Attisogbé a pris la place de Damien Penaud, et Théo Attisogbé, c'est un des tout meilleurs dans ce domaine-là, comme les autres Palois.
Il a fait un choix pour ça.
Et après, ils ont réorganisé la retombée du ballon. Parce que tu sais qu'au duel, le capter directement,
c'est impossible maintenant, quasiment.
Maintenant, tu vois.
Faut le tenter quand même, Cédric, parce que je trouve qu'il ne tente plus du tout maintenant.
Oui, on a vu beaucoup de ballons à Tissogbé. On a vu des ballons un peu type volleyeur ou basketteur rabattre dans son camp. Je pense que dans les duels, on les perdait en l'air, mais on arrivait à les volleyer. Mais sauf qu'on ne s'était pas organisé autour. Et là, tu sens vraiment que tu es organisé. Il y a toujours un mec dans l'axe, à droite ou à gauche, comme une escorte, on va dire, mais de soutien.
Un panier, j'appelle ça.
un panier qui permet aux joueurs de récupérer ce ballon, ce qui te donne un temps d'avance et de la vitesse. Parce que chaque fois que ces ballons sont pris, le joueur doit avoir des consignes pour éloigner au plus vite le ballon de cette zone. Et derrière, tu joues forcément en avançant. Et ça, c'est une vraie réponse stratégique. Et c'est aussi de montrer, si on peut parler aux jeunes rugbymen, que tout point faible peut être amélioré, puisqu'ils l'ont travaillé, retravaillé. Et ce qui a exclu un tout petit peu Damien Penaud de l'équipe de France, c'est que les autres sont performants dans ce secteur-là.
Tu es bluffé, toi, Wilfried, ça, par ça, depuis le début du tournoi ? Ça saute aux yeux, quand même.
Parce que moi, à me bagarrer avec le Moscato Show qui a...
À chaque chandelle, tu tremblais.
Non, c'est pas ça, mais qui a parlé à 98% de l'arbitre sur cette défaite, et les gens aussi, sur en quart de finale de Coupe du Monde. Moi, ce qui m'a choqué, c'est les 14 points gratuits donnés, et encore le dernier essai, c'est aussi un jeu au pied, mais c'est pas la même chose. Les deux chandelles qui se transforment. On a mis tellement d'énergie dans ce match à marquer des essais, des beaux essais, et prendre 14 points comme ça en quart de finale de Coupe du Monde, à pas prendre les chandelles. Moi, c'est ce qui m'avait choqué. Même si l'arbitre, on peut y revenir aussi. Mais bon.
Moi, c'est ce qui m'avait choqué. Des essais à zéro passe, tu vois.
C'est pas de dépense d'énergie pour les box. Ils avaient marqué comme ça. Pour moi, si on ne réglait pas ça, on est champion du monde. Et là, franchement, si ça change, là, ça, comme dit Fabien, ça ouvre le champ des possibles.
Et puis tu le bosses, plus les rebonds, plus tu t'organises, et plus les rebonds, ils te sont favorables. Tu vois, quand tu arrives dans ces zones-là en confiance, heureusement, ça tombe, ça tombe de ton côté.
Cédric, les yeux dans les yeux. T'aimais bien bosser, être sous les chandelles et tout ça.
Honnêtement, avec Gonzalo Quesada, on a énormément bossé.
Ah ouais ?
Oui, parce qu'il existait dans un autre sport.
Et comment tu bossais ?
Il y a un sport qui est très en avance là-dessus, c'est le football australien, où ils ont des espèces de boucliers, les coachs ont des espèces d'armures ou de boucliers, où tu dois monter et t'appuyer sur ton adversaire avec ta jambe qui est face à ton adversaire pour temporiser, rester en l'air et récupérer le ballon. Et ça se bosse. C'est pour ça que je râlais il y a un an et demi, parce que tu sentais qu'on ne le bossait pas et qu'on n'avait pas pris conscience que ce jeu-là était néfaste pour l'équipe de France. Et là, ils l'ont bossé, on a des résultats, ils ont mis en place le fameux panier qui te permet, toi, de récupérer des ballons et de remettre la pression sur l'adversaire. Mais c'est une prise de conscience qui était nécessaire Et là, ils l'ont eu, et bravo à eux. Okay. Bravo.
Et c'est pour ça que les Bleus sont largement au-dessus, peut-être dans ce tournoi aussi. Ça y est, on est injouable. Ça y est, là, moi, je vois les gars, je vous écoute. Ça y est, le traumatisme des box est derrière nous. On va y aller.
On va parler de la Coupe du Monde.
La Coupe du Monde est à nous, c'est incroyable, la première fois. Oh, le délire. Excusez-moi, je vais redescendre un petit peu. On est dans le tournoi destination. Alors, on va parler un petit peu tout à l'heure avec toi, Cédric. Voilà, sur le niveau des adversaires, c'est vrai qu'on avait assez facilement cité les Irlandais et les Anglais, comme d'hab, hein, j'ai envie de dire, comme les adversaires potentiels des Bleus pour la victoire finale. Tu as dit que tu ne comprenais pas grand-chose au jeu des Anglais, Cédric, tout à l'heure. Les Anglais, avec déjà deux défaites dans ce tournoi, donc il y a eu celle face à l'Écosse et donc celle face à l'Irlande, en Écosse, hein, c'était à Murrayfield, et les Irlandais, deux victoires, une défaite. La défaite, c'était contre les Français, et ça avait été compliqué contre les Italiens également, surtout le match à Dublin, souvenez-vous. Pourquoi ils sont finalement pas au niveau attendu, Cédric? On t'a déjà entendu là-dessus, peut-être, Pierre et Wilfried.
Rapidement,
vas-y.
Non, mais dire que l'Irlande, je suis pas surpris parce que c'est une équipe qu'on l'a dit qui est vieillissante.
On avait dit, oui.
Un renouvellement de génération. C'est vraiment l'Angleterre.
Ils ont mis deux matchs à virer Prendergast.
C'est ça aussi.
Ah ouais, là, il était temps, là aussi. Hein. Je me dis, ah là, waouh.
Waouh. Un peu dur, mais bon.
Non, mais je veux pas être méchant. Mais quand t'as un fils qui joue aussi vite. Tu te dis, bon, ben, quand t'es ailier au second centre, tu te dis, ben, je vais prendre une marée. Toute la
non, mais en effet, l'Irlande, disons que c'était un peu plus attendu. L'Écosse, pour moi, fait de l'Écosse, c'est-à-dire joue bien, mais parfois, ils sont pas au rendez-vous sur des matchs importants. Et moi, c'est vraiment l'Angleterre, comme disait Cédric.
Eux, ils sont
la
pas
grande
au niveau
inconnue.
Attendu. Voilà.
Ils sont pas au niveau attendu. On connaissait leur plan de jeu qui est parfois ennuyeux et où on monte des quilles et on occupe le terrain et on construit le match tranquillement et on tape des drops et on prend tous les points possibles et c'est pas intéressant, mais ça gagne. Mais là, il y a même pas ça, il n'y a même pas cette logique d'équipe de construire un match correctement.
Ils jouent en Italie le prochain match. Hein.
Mais ils jouent en Italie, mais franchement, ils ne sont pas forcément favoris en Italie, hein, sur ce qu'on a vu depuis le début du tournoi.
On a la sensation que cette équipe est coupée en deux.
Ouais.
Entre quand ils veulent porter le ballon devant, quand ça va taper au milieu de terrain pour remettre de la vitesse, on sent qu'il n'y a pas une grande sérénité, une grande cohésion.
Il n'y a pas d'idée collectif qui réunit tout le monde.
Il n'y a pas d'idée commune partagée pour essayer de trouver des solutions. Puis quand tu as un sélectionneur qui est sous pression, il fait des choix, des fois peut-être par dépit ou par obligation ou par pression, et tu sens qu'il n'y a pas de sérénité.
Wilfried ?
Après l'Irlande, Cédric l'a dit, ils sont vieillissants, il faut pas les enterrer, mais on a du mal à voir comme l'équipe de France, c'est l'inverse, enfin le réservoir qu'a l'équipe de France, c'est on le voit pas en Irlande, quoi.
Tu le vois nulle part.
Et l'Angleterre.
Mais c'est ça,
oui,
en fait.
Oui. Ouais. Déjà tu le vois nulle part, mais bon, chez les Irlandais, t'as pas ce renouvellement, il y a la même ossature depuis longtemps. Et chez les Anglais, oui, c'est pareil. Je sais pas, j'ai dit il a ressuscité George Ford, Borthwick. Mais bon, il l'a réenterré là. parce que moi, on a vu Finn Smith, on a le souvenir de Finn Smith face aux Français qui avait fait très mal l'année dernière. Et puis on l'a pas installé.
Qu'amène Northampton en finale de Coupe d'Europe, enfin, il fait des choses l'année dernière.
Et voilà, donc, et puis derrière, ça manque de génie, c'est plutôt solide. Mais bon, quand vous voyez Arundel qui est titulaire maintenant à l'aile de l'Angleterre, il t'a pas laissé un souvenir impérissable au Racing, Pierre Arundel.
Ah non, et puis il l'a pas laissé aux supporters et aux joueurs du Racing non plus.
En plus, ils se font taper sur la tête des chandelles parce qu'ils sont tout petits. Quand ils mettent après Marcus Smith en fond et puis ils prennent plus un ballon, le pauvre Marcus Smith, c'est pas un arrière.
Cédric,
pour
t'en avais combien des Arundel dans chaque jambe, Cédric?
Non.
Il va vite,
c'est vrai qu'il va vite.
Pourtant, Cédric, c'est la France romantique, c'est le 4 d'hab, il en a profité de la France romantique, Cédric.
Oui, je suis romantique.
Non, mais je pense qu'il y a un truc peut-être important sur le. On se disait cette petite musique qui monte peut-être sur le niveau du tournoi. Ça part peut-être aussi d'une déception du niveau des Anglais, et on se faisait peut-être une joie et un rêve de voir une super finale au Stade de France, France-Angleterre, un crunch pour finir avec peut-être le grand chelem en jeu, et finalement,
mais t'auras le grand chelem en jeu.
Mais t'auras pas la finale du grand chelem, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'attendait à un espèce de truc grandiose, et finalement, en fait, on aura,
non, mais
entre guillemets, juste un crunch.
Faut pas minimiser, mais c'est vrai que ce côté romantique, on aurait aimé avoir des gros adversaires et être le plus fort des gros, tu vois. Ça, je pense qu'on aurait aimé ça. Mais là, bon, malheureusement, après, attention, hein, l'Écosse en Écosse, c'est pas fait. Et l'Angleterre, juste
par amour pour embêter les Français, ils sont clair, capables
ouais.
de...
Ouais, oui, ouais, ouais. c'est ça, ouais. l'amour fou. Ouais. Alors, c'est vrai, alors l'Écosse en Écosse, c'est pas fait, bah, justement, il faut en parler, ça sera peut-être la finale de ce tournoi. Alors peut-être pas, Cédric, tu vas pas être d'accord, parce qu'il faut toujours voir le match face aux Anglais à la fin, surtout en vue du Grand Chelem, et tu as bien raison, mais c'est vrai qu'ils sont deuxièmes actuellement.
Bah, y a ce un fait, Georges, voilà. si on gagne avec ce le bonus, eux, on gagne le tournoi.
On gagne le tournoi,
hein.
voilà, on gagne le tournoi, si on gagne avec le bonus à Anfield.
Wilfried, t'es en position de gagner le Grand Chelem, même si le match, il va être
c'est
compliqué.
C'est factuel,
difficile.
Nous sommes journalistes, monsieur, nous oui, racontons des alors, faits. Okay. Si on gagne avec le bonus, on a gagné le tournoi, je t'ai juste laissé ça. Je t'ai pas dit que c'était. Fallait pas faire Grand Chelem.
Mais est-ce que c'est d'accord. le rival inattendu, quand même, l'Écosse, pour vous, les gars?
Bah, depuis le début, on est. À part Wilfried, parce que sa connaissance rugbystique, des fois, on peut se poser des questions. mais on savait tous que l'Écosse en Écosse, ça allait être compliqué.
Ah, non, mais ah bon c'est... Ah, ouais. ah bah non, tu rigoles ou quoi là oh. hein, j'étais si, il y a deux compliqué. Ans quand Posolotu il a guimé son biceps là, sous le ballon pour pas qu'il marque l'essai. On gagne 20-16. Là,
et d'ailleurs, il l'avait marqué l'essai, hein, Wilfried.
Bah, moi je pensais. Et finalement, il est refusé et ça gagne 20-16. Et oui, et vous voulez deux
quoi,
ans
c'est
avant,
quoi,
vous
vrai niveau
de... Momo Awas, le carton rouge, comment il nous avait embrouillé.
Les gars, c'est quoi le vrai niveau de cette équipe d'Écosse? Parce que là, on dit ah, Murrayfield, incroyable ambiance et tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dauphin. C'est ça aussi qui nous permet de juger oui. le niveau d'une oui. compétition. C'est-à-dire que l'équipe derrière l'équipe de France actuellement, c'est cette équipe-là, qu'est-ce qu'elle vaut
bah,
vraiment.
Elle a fait un bon match. Contre l'Angleterre. Bah,
Tu ne sais pas parce qu'ils sont inexistants face au Pays de Galles et ils ont du génie et tout d'un coup, ils traversent ce match. En Italie, tu dis, mais c'est quoi
Cédric, c'est les Français d'avant. C'est les unpredictable, comme ils disent les Anglais, là. Imprévisible et on peut pas. C'est les Français de ce qu'on était il y a quelques années, nous.
Tu sais jamais quelle équipe d'Écosse va arriver sur le terrain.
Battre les meilleurs et perdre contre n'importe
ça
qui.
Ça me
aussi.
Coûte, mais peut-être que tu as raison. Ça me coûte de le dire.
Non, pas tout le temps. C'est mais une certaine génération voilà, de telle année à telle année.
Mais est-ce que c'est une vraie finale ou est-ce que franchement on en fait des tonnes parce qu'on est journaliste?
Ah, pour moi c'est le match le plus dur en tout cas. Après de là oui, en faire une sûr. Finale non parce que je pense pas que les Écossais et les Bleus ont les mêmes ambitions sur ce tournoi de destination. Mais c'est le match qui va être le plus compliqué parce que c'est loin de Paris et que c'est un déplacement qui est jamais évident et que les Bleus ne roulent jamais sur les Écossais à Murrayfield. Et comme a dit Cédric, on sait jamais quelle équipe d'Écosse peut débarquer.
C'est du vent et de la cornemuse aussi, oui, c'est donc ça. C'est pas la.
Oh, non, mais caricature.
Je crois que c'est ça qui joue de la cornemuse d'ailleurs. Il l'a fait
oui, oui, avec mon ventre. Ouais, comme ouais. ça, c'est dit. Voilà.
Non, mais c'est particulier. Les conditions climatiques, Cédric, les conditions climatiques, le vent, eux, ils maîtrisent mieux ces conditions.
Oui, puis ce stade permet ça. Ce stade, tribune pas très, très, très haute, le vent s'engouffre, cette piste d'athlétisme, ce vent tourbillonnant. Ce stade peut être compliqué. Ça,
non mais raconte-nous ton expérience de Murrayfield.
Cimetière à Hélier.
Ouais.
Ah non, ça va. Moi, je ne sais pas la stat que j'ai.
Mais toi, tu as gagné souvent. J'ai cherché la stat. Ouais, je l'ai pas trouvé parce que je crois que tu as pratiquement tout le temps gagné là-bas.
Voilà.
Ouais, mais Murrayfield, c'est quoi? C'est comment? Raconte-nous. Jouer sur le terrain, on n'a jamais joué.
Déjà, tu as presque envie de la chanter. Tu vois, quand tu ouais. les écoutes, tu te dis, bon, je vais pas la chanter parce que ça craint. Mais t'as presque envie tellement que c'est beau. Et après, personnellement, oui, j'ai quelques souvenirs avec Vincent Clerc sur une action où on avait une certaine marque avec une virgule, avait lancé une chaussure orange et on avait fait plutôt un beau mouvement pour aller marquer cet essai, mais c'est joueur. Quand tu vas en Écosse, tu sais que tu vas toucher du ballon et tu vas jouer. Tu sais que ça va être décousu.
C'est ouvert comme match.
Ouais, tu sais que tout peut se passer, mais après il y a tout le côté, et je vais revenir sur le mot romantique, mais il y a tout du beau jeu, cette nation, il y a tout, et puis tu te sens bien dans ce stade. Même si, je le redis, il est compliqué à maîtriser. Je parle pour les ballons.
Ah oui.
Attention à Finn Russell, en parlant de romantique.
Ah, mais c'est sûr, ouais, ça c'est sûr.
Non,
mais
tout bon, tout mauvais.
Vous avez vu, Wilfried aujourd'hui, il est là que pour enfoncer nos portes ouvertes. Antoine Dupont, meilleur joueur. Attention à Finn Russell.
Non, parce que Finn Russell, moi, il y a quelques temps, Finn Russell disait, je ne le veux pas dans mon équipe. Je ne le prends pas pour être champion du monde, je disais.
Je te kiffe.
Parce que c'est la double fin de passe. Mais je trouve qu'il a gagné en constance.
Mais Wilfried, même s'il a gagné en constance, tu le prends pour être champion du monde?
Non.
Moi, je te le dis, je ne le prends pas.
Je précise quand même que on est invaincu dans le tournoi face aux Écossais depuis 2021. on avait perdu chez nous. Et la dernière fois qu'on a perdu à Murrayfield, c'était en 2020. Donc oui. Voilà, on a quand même une
carton rouge à Aouas, là. Il nous avait fait un petit piège, là.
Ah oui, ouais, exact, c'est vrai. Ah, ouais, ah, ouais. Donc il y avait quand même
vous
des circonstances.
Bien piégé, ouais.
Dans le calendrier, c'est bien qu'on ait une petite semaine de récup. Hein.
Ah oui, tu penses, avant d'aller là-bas. Il y a besoin d'être à 100%, ouais.
Ah oui, oui, c'est sûr, parce que ça va courir. Je pense qu'on peut avoir des stats folles sur ce match.
Est-ce qu'on peut parler du Grand Chelem quand on est joueur du 15 de France, les gars, ou c'est tabou?
Il commence.
Non,
tout
c'est pas tabou, je crois, non
Thomas Ramos. Tabou, je crois. On écoute Thomas Ramos. Ouais.
Non, c'est pas tabou.
C'est sûr que c'est plus prestigieux de faire un Grand Chelem que de gagner le tournoi. Et à la fin, vous soulevez le même trophée. Donc, ce qui est important, c'est de faire un bon match en Écosse, d'essayer de gagner le match là-bas. Et puis ensuite, on verra le résultat du prochain match, ce qui nous est proposé comme défi face aux Anglais. Mais c'est sûr que oui, on a envie de gagner ce tournoi, peu importe la manière dont on fera.
Cédric, c'est parfait que tu sois avec nous aujourd'hui, parce que moi, ça me rend fou depuis des semaines et des semaines.
On va prendre
le match les uns après les autres, ouais, machin et tout. Franchement, quand t'es au sein de l'équipe, tu vises le Grand Chelem, mais vous en parlez tout le temps entre vous, arrêtez de nous prendre pour les imbéciles.
Alors, je vais être transparent. Je crois qu'à partir du moment où tu prends match après match, tu peux.
Je me suis dit. Non,
mais bien sûr que t'en parles. Mais bien sûr que t'en parles. Mais la décence, du moins le respect ou l'éducation rugbystique te permet pas. Mais forcément, tu l'as en tête. Mais forcément, tu l'as en tête. Et forcément, tu ne vises que ça. Tu ne vises que ça. Et heureusement qu'ils en parlent. Et heureusement qu'ils se sont projetés à l'approche au début de ce tournoi en disant « on veut faire le Grand Chelem ». Bien sûr, mais tu as l'air con si tu l'annonces et que tu ne le réalises pas. Mais aujourd'hui, c'est que français. Les Anglais, quand ils démarrent, ils disent « oui, on veut faire le Grand Chelem
». C'est une question de culture aussi. Hein,
ouais, c'est culturel. Et Thomas Ramos a la meilleure des réponses. Bien sûr qu'ils en parlent. Il faut arrêter de se cacher, de dire « on n'a pas le droit ». On en a tous marre de ces déclarations match après match. Oui, on verra le week-end prochain. Mais non, t'es compétiteur, t'es là pour gagner, t'es là pour soulever la coupe et faire Grand Chelem.
Attention, voilà. Fact-checking. Cédric Aymance a déjà répondu ça, Wilfried Templier, après un match du Stade Toulousain. On prend les matchs les uns après les autres.
Ouais, non, tu parles, Guy Novès, tu disais dans le vestiaire, faut pas dire ça. Et il disait, on prend les matchs les uns après les autres. Et voilà.
Ah oui, par contre, j'étais briefé.
Oui, dis-moi, Cédric, je t'attends de dire, Cédric. Eh, ça va pas lui dire ça, Cédric
Ou je dis à Wilfried, tu ne passes pas cette dernière phrase, s'il te plaît.
Attendez, excusez-moi, parce que c'est un événement, là, je crois que c'est la première
imitation. Là. Il y a une nouvelle imitation.
On est lancé entre les poteaux, ça veut dire que désormais on maîtrise.
Bonjour, tu veux me voir, c'est Guy.
Sur 20, sur 20, Cédric, tu mets combien à l'imitation de Guy Novès?
Moins 2.
Foutez-le dehors.
Non, il n'y a que l'accent.
Super, excuse-nous, Nicolas Canteloup. Pierre, sur le Grand Chelem, ils faisaient, ouais, bon, ils veulent pas trop
en
parler.
Ils commencent à en parler un tout petit peu. Mani Meafou en a parlé après la rencontre. Là, Thomas Ramos le dit un tout petit peu parce que avant ça, il refusait complètement d'en parler. J'avais demandé à Lenny Nouchi s'il se projetait sur le tournoi en lui demandant de ne pas répondre qu'il prenait les matchs les uns après les autres. Et il m'a dit, bon, bah, les cadres, ils me disent de prendre les matchs les uns après les autres. Donc, c'était vraiment un peu tabou pour le coup. Et là, Ramos.
Non, les cadres me disent de dire.
Oui, c'est vrai, les cadres. Ouais. Et non, mais il va être obligé de s'y projeter parce que là, il reste plus que deux matchs. Ils sont à 15 sur 15, donc évidemment qu'ils y pensent, et évidemment que ça n'aurait pas la même valeur, même pour eux, de faire un Grand Chelem ou un tournoi classique. Quand Thomas Ramos dit c'est le même trophée à la fin, peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric, mais c'est quand même autre chose de dire que tu as réussi un Grand Chelem plutôt que
un
de
schlemmer.
Gagner un tournoi.
Un Schlemmer. Non, tu as la même coupe, oui, c'est le même trophée, mais ça n'a rien à voir en termes de saveur, ça n'a strictement rien à voir. Tu gagnes, mais tu as un match perdu. Admettons, nous, c'est l'Angleterre lors du dernier match. T'as quand même un goût amer. Tu te dis, tu pouvais le faire, tu ne l'as pas fait. Et cette équipe, je le redis. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais sur les 5 dernières éditions de l'équipe de France, on a quoi? On a 2 victoires ou 3 victoires.
On a un Grand Chelem en 2022, une victoire en 2025.
Ouais, donc là, on ferait 3 sur 5, c'est ça?
Ouais, 3 sur 6.
3 sur 6.
De Fabien Galtier.
Elle est
là-haut. Elle a besoin de gagner. Oui. Elle a besoin de remplir la vitrine à trophée et elle a besoin de marquer son territoire. Et tu marques ton territoire que par la victoire, et le Grand Chelem fait partie de ces moments-là où tu actes en disant « sur ce tournoi, messieurs, c'est nous les meilleurs ». Et tu envoies un message très fort pour l'hémisphère sud.
Ça ferait 3 sur 5.
Et là, oui, donc ça fait 3 sur 5, c'est ce que je... Ouais.
Mais 3, voilà, mais non, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
Si t'as gagné en 22 et en 25...
Oh là là. Non, mais je parlais de moi, je parlais depuis que Fabien Galtier est sélectionneur.
Ah oui, d'accord.
En fait,
Non, 3 sur les 5
avec cette génération.
Attendez, on est vraiment en train de faire cette séquence minable de mauvais calcul.
Oui.
Non, mais 10 ans, c'est depuis que Fabien Galthié est sélectionneur, en fait, avec cette génération.
Oui, mais Cédric voulait dire qu'on a gagné 3 des 5 derniers. C'est juste, c'était ça son.
Oui, oui.
Pierre, on va parler tous les deux des stades.
Ça ne sert à rien, mais bon, si ça fait plaisir à Cédric et Mans, alors voilà.
Bon, Cédric, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. Tu es officiellement un poteau. T'as la première cape. On est bien contents. T'as vu.
J'attends que Wilfried me remette ma cape. On verra.
Bah, ouais, bien sûr.
On va voir déjà si on te sélectionne un jour.
On verra. Enfin, on te remettra ta cape si à la fin on est des schlémars avec le 15 de France. Allez, on va être des schlémars, quoi, la bande de Jalibert, Dupont, qu'est-ce qui se passe.
Jalibert, on pense qu'il va revenir.
Ah,
normalement, à 10 jours annoncés, petite lésion en haut du mollet, 10 jours à partir de samedi, ça veut dire quand même milieu de semaine prochaine, quoi.
Ouais, donc avant le match en Écosse, c'est zéro prise de risque face à l'Italie, quoi.
Oui, mais c'est pas évident un mollet, Cédric, d'être tranquille avant le match de l'Écosse, c'est voilà.
Ouais, un mollet, c'est chiant, évident. C'est vraiment chiant.
Ouais. Et moi, je pense à nos auditeurs entre les poteaux là, qui peut-être attendaient cette question depuis le début du podcast. Est-ce que Jalibert va jouer face à l'Écosse? Et ça arrive à la toute fin après plein de vannes et des imitations.
Georges, quand tu prépares les émissions, appelle-moi un peu avant.
Ouais.
Et on dira à Wilfried ce qu'il doit dire.
Bien sûr. Non, surtout, ce qui est très important, Cédric, c'est que tu fasses écouter ce podcast à Guy Noves et il nous dira si l'imitation était bonne.
Ah non, mais je lui envoie tout ce que balance Wilfried sur lui.
C'est toi.
Je refais, c'est moi qui balance. Depuis le début. C'est moi.
Allez, merci Cédric, merci Wilfried, merci Pierre. Salut, rendez-vous vendredi pour l'apéro des poteaux avant la journée de top 14 et abonnez-vous sur toutes les plateformes de téléchargement. Salut.